Nous voici au désert à l'écoute de Jean-Baptiste et tout cela pour préparer Noël. Et on a la chance, là, d'ailleurs, là, on a une jolie crèche là, qui évoque ce beau mystère de Noël. Ça, Noël, c'est la lumière dans la nuit, véritablement, comme disait le prophète Isaïe. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ben ça commence par l'aurore de Jean-Baptiste. C'est celui qui prépare les chemins. Jean-Baptiste au désert. C'est toute la synthèse du prophétisme biblique de l'Ancien Testament qui se réalise en lui et par sa mission. Elle était double. La mission du prophète traditionnellement, c'était le gardien de la foi et en plus c'était le gardien de la morale, les commandements. La foi, c'était la foi en la présence de Dieu au milieu du peuple et sa souveraineté bien sûr. Pas un Dieu comme les idoles qui servaient dès qu'on avait besoin de quelque chose et dont on oubliait la présence quand on avait besoin de rien. Non, un Dieu vraiment présent et souverain. Donc le prophète, c'était ça, sa vocation. Et vous allez me dire, mais c'était... Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? Ça doublait ce que faisait le clergé, en quelque sorte. Ben oui, enfin non, parce que le clergé ne le faisait pas. Donc il fallait bien que les prophètes se dressent. Et ils se sont dressés à des époques où à chaque fois, il y avait un vide à remplir. Jean-Baptiste, lui, il est venu remplir un vide immense. Personne ne savait, tout le monde désirait secrètement, mais personne n'y croyait vraiment à la venue de ce Messie. Vous parlez, on l'annonçait depuis le début de l'Ancien Testament, quasiment. Et chaque prophète reprenait un peu des mêmes expressions. Il va venir bientôt. Et puis on voyait arriver personne, on voyait arriver des troupes ennemies, où on voyait arriver des financiers égoïstes qui dépouillaient tout le monde, etc., etc. Ça, on les voyait, ceux-là, mais le Messie, on ne le voyait pas. Ben, il fallait vraiment remettre les choses en place. Le prophète, il était là pour dire que les temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes, et que si les hommes ne sont pas disponibles, pas disposés à recevoir Dieu quand il est là, c'est pas la peine que Dieu se dérange. Alors, la morale d'abord. On sait que Jean-Baptiste est mort à cause de ça, à cause de son affaire avec Hérode, qui avait épousé sa belle-sœur. Et il lui disait que c'était impossible. Et il est mort à cause de la morale, Jean-Baptiste. Donc c'était important dans sa vie. Mais c'était important parce que ça faisait partie de sa mission. La morale, c'est celle de la justice pour les prophètes. C'est-à-dire une valeur fondée sur la vérité. La justice, c'est ça. Et on voit bien que l'injustice dans une société, c'est un véritable fléau qui détruit tout l'équilibre de la société parce que ça détruit la confiance des membres de cette société. Et donc plus personne n'y croit, plus personne ne travaille au bien commun, tout s'use et s'écroule. Et on ne peut plus avoir qu'une société d'esclaves pour avoir quelque chose qui tienne encore debout. Donc, craignons déjà que le monde s'éloigne de la justice. La justice, c'est un grand cadeau que le christianisme nous a légué, mais il faut nous ressourcer sans cesse dans les bienfaits de ce cadeau que Dieu nous a fait en venant dans le monde, la justice. Et la morale est fondée là-dessus, sur ce principe. Après, tout, on en déduit tout, quoi, en fonction des circonstances. Et une morale, enfin, également personnelle, pas simplement une morale collective. Nos contemporains se sont habitués à une morale collective que tout un chacun, en tout cas, se juge pouvoir éviter ou arranger à sa sauce. Jean-Baptiste explique à ses contemporains, à ceux qui viennent, le trouver, bien que ça ne peut pas se passer comme ça. Vous voyez, une justice, donc, qui est trop collective, elle multiplie les lois dans tous les domaines. On y assiste dans notre propre pays depuis plusieurs décennies. les lois n'ont pas cessé de se multiplier pour des tas de choses tout à fait insignifiantes, mais qui prennent force de loi. Et des expressions, parler, on ne peut même plus dire tout ce qu'on veut, sinon on a une amende. On multiplie les lois. Parce que les gens sont devenus incapables de rejoindre le principe, la vérité, la justice, qui préside normalement au rapport social. Quand on en arrive là, on peut dire qu'on a perdu le sens de la justice, même si l'idéal demeure sur le papier. Donc une morale qui soit personnelle. Si on ne regagne pas cela, eh bien Jean-Baptiste dit, Dieu ne peut pas venir dans nos vies. Une prédication qui était vraiment messianique. Donc maintenant, l'autre aspect, rétablir la foi comme Élie l'avait fait avant lui, et Jean-Baptiste, au dire même de Jésus, c'est Élie qui doit revenir. Donc elle est vraiment messianique. Et on voit bien que Jean-Baptiste présente le Messie, Jésus lui-même, comme étant le juge dernier, le juge qui met les points sur les i à la fin des temps et sur toute chose. Et cette expression, cette allusion au feu qui ne s'éteint pas, eh bien ça rejoint les paraboles de Jésus sur le jugement. On peut dire, déduire la tonalité de la prédication de Jean au désert. Donc, pour la morale, quelque chose de personnel est fondé sur la justice. Pour le point de vue plus dogmatique, on va dire, centré sur la foi, eh bien, un retour aux méditations sur les fins dernières et sur l'autorité de Dieu et sa gloire, en même temps que sa présence, mais aussi sa gloire. Il y a une allusion avec le rite des sandales, parce que c'est un rite matrimonial en réalité, le rite des sandales. Quand une femme était veuve, eh bien, on passait, la sandale en quelque sorte, passait au plus proche pour donner des héritiers aux frères qui étaient morts sans donner d'héritier. C'était la coutume pour eux. Mais donc c'est une référence au mariage, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une relation de Dieu aux hommes qui est fondée sur l'amour et pas simplement sur un règlement ni sur une superpuissance. Vous voyez, il y a tout ça dans la prédication de Jean-Baptiste. Alors, quel rapport avec nous qui attendons Noël? Eh bien, tout cela, c'est l'avant. Nous devons nous ressourcer dans toutes ces valeurs que Jean prêchait aux foules au désert. Nous sommes dans le désert de l'avant et vraiment, nous devons faire comme lui, chercher Dieu. La mission de Jean-Baptiste, elle englobait toute son existence. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le plus grand des prophètes. Il a fait plus que tous les autres. Les autres avaient une vie privée. Il y avait des temps réservés à l'appel de Dieu, des choses à faire, des missions à accomplir. Mais ils étaient mariés, ils avaient leur famille, leurs héritages aussi, leurs affaires. C'était des gens normaux, les prophètes. Quelques-uns ont été un peu plus loin, mais Jean-Baptiste, lui, c'est celui qui a tout quitté pour chercher Dieu et qui nous dit qu'il a été dans un lieu particulier pour ça, le désert, c'est-à-dire pour nous enseigner le sens de l'intériorité. Faire taire toutes les voix autour, c'est le sens du désert, aller au désert pour écouter, pour n'entendre que le silence et la voix de Dieu qui est ténue. Bien qu'elle soit toute puissante, elle est ténue, elle ne supporte pas les autres bruits qui viennent en compétition avec elle. Le désert, c'est ça, et c'est le sens de l'avant que nous devons vivre. Jean-Baptiste, ça a pris toute sa vie, disais-je, parce que ses parents étaient âgés, on le sait bien. Donc ils sont morts très tôt, et donc il a été libre très tôt. Et la liberté est devenue pour lui... Eh bien, un idéal religieux, véritablement, pour échapper aux structures et aux valeurs du monde. Au lieu de devenir prêtre et de rentrer dans une institution, Jean-Baptiste a choisi d'institutionnaliser, en quelque sorte, au désert, c'est-à-dire loin de toutes les institutions, le contraire de l'institution, mais de faire briller au désert eh bien, cette parole de Dieu, les exigences de Dieu, la vie spirituelle. Il était célibataire, il a renoncé vraiment et un célibat consacré. Tout ça, ça prend sa vie hein, à Jean-Baptiste. Et il nous propose quoi pour notre programme de l'Avent? Eh bien, un baptême d'eau. Un baptême d'eau, ça a deux dimensions. C'est une dimension pénitentielle, d'abord, prendre conscience du péché et de ses ravages. Ça doit être une méditation de l'Avent, ça. Et puis l'autre, comme l'eau, c'est un symbole de l'univers des valeurs, c'est un symbole de l'esprit dans la Bible, eh bien, c'est le rétablissement du bon sens, d'une intelligence fondée, finalisée par la vérité. Et dès qu'il n'y a pas besoin de culture pour ça, dès que notre intelligence eh bien, ne cesse de tourner en rond et parvient à trouver le sens de la transcendance, eh bien, qu'importe la culture, parce que le cerveau commence à fonctionner normalement. On voit avec toutes les mesures là, des gouvernements européens et mondiaux sur toutes les crises, combien le bon sens serait salutaire pour eux s'ils pouvaient avoir un peu transcendé leurs petits problèmes et leurs petites valeurs. Et puis au désert, enfin pour l'Avent, Jean nous apprend et prêche la joie. Ah, une joie toute évangélique, une joie toute de Noël en quelque sorte. La joie des bergers lorsqu'ils découvrent qu'il y a des anges dans ces pâturages où ils se trouvent. La joie des mages qui ont enfin trouvé ce que l'étoile leur indiquait. C'est cette joie-là. La joie de Marie et de Joseph, enfin, bien sûr. D'accueillir ce divin nouveau-né. Alors c'est un beau programme, au désert en tout cas. Au désert et avec les exigences de la recherche de Dieu et de l'accueil de Dieu.